Chapitre 7. Terrassé par la fièvre et la douleur, Richard s'aperçut à peine qu'il s'était affaissé, la tête reposant sur la table. Il gémit pendant que son esprit embrumé mesurait les implications de ce que Callan venait de dire à Z. Les prophéties du grimoire des ombres recensées allaient se réaliser. Il sentit que son vieil ami approchait de lui. Puis, il l'entendit dire à Callan de l'aider à le porter dans la maison. Alors qu'ils marchaient avec leur soutien, le sol sembla glisser de droite à gauche, comme s'il voulait se dérober sous ses pieds. Enfin, on l'étendit sur un lit sous une épaisse couverture. Ses amis continuaient à parler, mais leurs mots n'avaient plus de sens pour lui, comme s'ils avaient seulement prononcé la moitié de leurs syllabes. Son esprit sombra dans l'obscurité, puis il vit de la lumière, mais il remonta à la surface pour mieux se noyer de nouveau. Qui était-il? Que lui arrivait-il? Le temps passa. La pièce tanguait et roulait autour de lui comme un bateau dans une tempête. Il s'accrocha au lit pour ne pas être emporté. À certains moments, conscient de l'endroit où il était, il essayait de s'ancrer à tout ce qu'il savait comme un navire s'arrime au port. Mais le néant l'aspirait de nouveau. Enfin, il se réveilla et s'aperçut que son absence avait été longue. Mais de quelle durée exactement? Des heures? Des jours? Davantage? Il n'aurait su le dire. Faisait-il nuit dehors ou avait-on simplement tiré les rideaux? Quelqu'un, s'avisa-t-il, lui passait un linge humide et frais sur le front. Sa mère lui caressait les cheveux. Ce contact était si réconfortant. Il parvint presque à voir son visage. Elle avait toujours pris soin de lui avec tant de tendresse. Jusqu'au jour de sa mort. Richard eut envie de pleurer. Elle n'était plus, et pourtant elle lui caressait les cheveux. Comme c'était impossible, il devait s'agir de quelqu'un d'autre. Mais qui? Callan, se souvint-il. Il murmura son nom. C'était elle qui lui caressait les cheveux. Oui, Richard, je suis là. Tout lui revint d'un coup. L'assassinat de son père, la liane qui l'avait blessé, Callan, les quatre tueurs sur la corniche, le discours de son frère, d'autres choses encore. Quelqu'un l'attendant dans sa maison, le garne, la flamme nuit lui ordonnant de découvrir la vérité ou de mourir. Enfin, ce que Callan avait dit au sujet des trois boîtes d'Orden, une phrase qui faisait écho au grimoire des ombres recensées. Alors, il se souvint. Son père l'avait conduit dans un endroit secret au cœur de la forêt. Là, il lui avait raconté comment il était parvenu à sauver le grimoire du danger qu'il courait à l'insu de la bête chargée de veiller sur lui jusqu'à ce que son maître revienne. George Cypher avait ramené l'ouvrage en terre d'ouest pour le soustraire à des mains avides dont le gardien du grimoire lui-même ignorait à quel point elles étaient menaçantes. Tant que le grimoire existerait, le péril subsisterait. Pourtant, il n'était pas question de détruire le savoir que renfermaient ces pages. Propriété du gardien, le grimoire devait être préservé jusqu'à ce qu'on puisse le lui restituer. Le seul moyen de réussir était de mémoriser son contenu, puis de le livrer aux flammes. Ainsi, le savoir serait conservé mais pas volé, un drame qui se produirait sûrement sinon. George avait choisi Richard et pas Michael, pour des raisons qu'il était seul à connaître. Nul ne devait être informé de l'existence du grimoire, même pas le frère de Richard. Seul le gardien avait le droit de savoir, oui, lui à l'exclusion de tout autre. Si Richard ne le trouvait jamais, il devrait transmettre son savoir à un de ses enfants, qui l'imiterait un jour, le processus se répétant aussi longtemps que nécessaire. George ne pouvait pas lui révéler qui était le gardien, car il ne le savait pas. Quand Richard demanda comment il le reconnaîtrait, la réponse ne l'avança pas beaucoup. Il devrait trouver la solution seul et ne jamais en parler à personne, même pas à Z. Richard avait juré sur sa vie qu'il garderait le silence. Jusqu'à la fin, son père n'avait jamais posé les yeux sur le grimoire. Seul Richard en avait le droit. Jour après jour, semaine après semaine, sauf quand il voyageait, George l'emmenait dans la cachette et le regardait apprendre le texte par cœur. Michael préférant la compagnie de ses amis aux beautés de la nature, il ne s'était jamais aperçu de rien. Habitué à ne pas beaucoup voir Richard quand George était là, Zed lui-même n'eut pas de soupçon. Pour mieux mémoriser, Richard écrivait ce qu'il lisait, puis comparait avec le texte original. Ensuite, son père brûlait les feuilles et lui demandait de recommencer, s'excusant souvent d'avoir placé un tel fardeau sur ses épaules. À la fin de chaque journée passée dans la forêt, il implorait même son pardon. Richard ne lui en voulait pas, car la confiance qu'il lui témoignait était à ses yeux un honneur. Acharné, il recopia le texte une centaine de fois pour être sûr de ne jamais en oublier un mot. Au fil de sa lecture, il avait appris que la moindre omission ou le plus infime ajout provoquerait une catastrophe. Lorsqu'il annonça enfin à son père qu'il avait terminé, ils remirent le grimoire dans sa cachette et l'y laissèrent pendant 3 ans. Ce délai passé, peu après le 15e anniversaire de Richard, ils retournèrent dans l'endroit secret par une belle journée d'automne. Si Richard se montrait capable de restituer le texte sans commettre d'erreur, George et lui pourraient enfin brûler l'ouvrage. Richard écrivit d'une main sûre. Quand il compara avec l'original, il ne trouva pas une virgule d'écart. Ils allumèrent un feu et l'alimentèrent jusqu'à ce que la chaleur les fasse reculer. George tendit le grimoire à Richard. S'il était sûr d'avoir tout retenu, l'adolescent pouvait le jeter dans les flammes. Richard posa l'ouvrage dans le creux de son bras et caressa la reliure en cuir. La confiance que lui faisait son père, et par extension l'univers entier, pesait lourdement sur ses épaules. Au moment où il livra le volume au feu, il cessa définitivement d'être un enfant. Les flammes enveloppèrent le grimoire, le caressant et le consumant. Des silhouettes et des taches de couleurs dansèrent devant leurs yeux, et un rugissement retentit. Des rayons lumineux jaillirent en direction des cieux. Le vent fit claquer les manteaux des deux hommes, tandis que le brasier aspirait des feuilles et des branches mortes. Des spectres apparurent et écartèrent les bras, comme s'ils se nourrissaient des flammes, leurs voix caverneuses aussitôt emportées par la bourrasque. Comme pétrifiés, Richard et son père n'esquissèrent pas un geste, incapables de détourner le regard de ce spectacle. La chaleur se transforma en une bise plus froide qu'une tempête nocturne qui leur coupa le souffle et les glaça jusqu'à la moelle des os. Puis, ces frimas se dissipèrent et les flammes devinrent une colonne de lumière blanche si brillante qu'elle oblitéra tout, comme s'ils avaient été précipités au cœur même du soleil. Elle aussi disparut pour céder la place à un profond silence. Le feu était éteint et des volutes de fumée s'élevaient lentement dans le ciel d'automne. Le grimoire avait disparu. Le fils de George Cypher comprit qu'il avait vu la magie dans ses œuvres. Richard sentit une main se poser sur son épaule. Ouvrant les yeux, il reconnut Callan. Grâce à la lumière d'un feu qui filtrait par la porte entr'ouverte, il vit qu'elle était assise sur une chaise placée à côté de son lit. Le gros matou noir de Zed ronronnait sur ses genoux. « Où est Zed ?» demanda Richard encore vaseux. « Il est allé chercher la racine qui te guérira, » répondit Callan. « Il fait nuit depuis des heures. Selon lui, nous ne devons pas nous inquiéter s'il met du temps à revenir. Jusqu'à son retour, tu risques de sombrer plusieurs fois dans l'inconscience, mais il ne t'arrivera rien de grave. La potion qu'il t'a donnée te permettra de l'attendre en toute sécurité. » Pour la première fois, Richard s'avisa que Callan était la plus belle femme qu'il ait vue de sa vie. Ses cheveux tombaient librement autour de son visage et sur ses épaules. Il aurait voulu les toucher, mais n'en fit rien. Sentir sa main sur son épaule lui suffisait. Elle était près de lui et ne l'abandonnerait pas. « Comment te sens-tu ? » demanda-t-elle d'une voix si douce qu'il s'étonna que Zed ait pu avoir peur d'elle quand il la lui avait présentée. « Je préférerais affronter un autre quatuor plutôt que de me frotter à une liane serpent. » Elle lui fit un sourire complice, cette complicité qui semblait naturelle entre eux, et lui essuya le front avec un linge humide. Quand Richard lui saisit le poignet au vol, elle s'immobilisa et plongea son regard dans le sien. « Callan, Z est mon ami depuis tant d'années. Pour moi, il est comme un second père. Jure que tu ne lui feras pas de mal. Je ne pourrai pas le supporter. Je l'aime beaucoup, rassure-toi. C'est un homme de bien, comme tu me le disais. Lui nuire n'est pas dans mes intentions. Je veux seulement qu'il nous aide à trouver le grand sorcier. Promets-moi, insista Richard en lui serrant plus fort le poignet. Tout va bien se passer. Il nous aidera. Richard se souvint de la façon dont elle l'avait pris à la gorge, folle de rage, quand il lui avait offert une pomme qu'elle pensait empoisonnée. « Promets-moi » répéta-t-il. « Je me suis déjà engagé auprès d'autres personnes dont certaines ont sacrifié leur vie. Beaucoup de gens dépendent de moi. C'est plus important que « Promets-moi » Elle lui posa sa main libre sur la joue. « Désolé, Richard. » « Je ne peux pas. » Il lui lâcha le poignet, se tourna sur le côté et sentit qu'elle retirait la main de sa joue. Pensant au grimoire et à tout ce qu'il signifiait, il comprit que sa requête était égoïste. S'il la forçait à jurer qu'elle épargnerait Zed, le vieil homme mourrait avec eux. Devait-il condamner des peuples à l'esclavage ou à la disparition pour qu'ils vivent quelques mois de plus? Et fallait-il du même coup signer l'arrêt de mort de Callan? Pour rien? Richard eut honte de sa propre stupidité. Il n'avait aucun droit de lui demander ça. Et si elle lui avait cédé, c'eût été une erreur. Pour l'heure, il devait plutôt se réjouir qu'elle ne lui ait pas menti. Mais il savait que Zed, même s'il s'était enquis de leurs ennuis, risquait de refuser de s'impliquer dans une affaire qui concernait les contrées du milieu. « Callan, la fièvre me rend idiot, pardonne-moi, je t'en prie. » Je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi courageux que toi. Tu essaies de nous sauver tous, je le sais. Zed nous aidera, je m'en assurerai. Promets-moi simplement d'attendre que j'aille mieux. Laisse-moi une chance de le convaincre. Cette promesse-là, je peux la faire. Tu t'inquiètes pour ton ami. Si ce n'est pas le cas, c'est moi qui m'inquiéterai. Ce n'est pas du tout idiot. À présent, repose-toi. Richard essaya de ne pas fermer les yeux, car le monde se mettait à tourner dès qu'il baissait les paupières. Mais cette conversation l'avait épuisé et il ne put résister longtemps à l'attraction des ténèbres. De nouveau aspiré dans le vide, il erra sans fin dans des rêves confus, parfois plongé dans des endroits si déserts qu'on n'y rencontrait même pas des illusions. Le chat se réveilla et pointa les oreilles. Richard dormait. Ayant capté des bruits que seul un félin pouvait entendre, l'animal sauta des genoux de Callan, trottina jusqu'à la porte, s'assit sur son séant et attendit. Le voyant aussi paisible, la jeune femme resta assise près du lit.
« Minou, minou !»
lança une voix chevrotante.
« Où es-tu encore caché? Bon, si tu veux rester dehors... »
La porte s'ouvrit.
« Ah, oh, tu es là !»
Le chat sortit à la course.
« D'accord, fais comme tu veux. Cher enfant, comment va Richard ?»«
Il s'est réveillé plusieurs fois, » répondit Callan pendant que Zed entrait dans la chambre. « À présent, il dort. Vous avez trouvé la racine ?»«
Bien sûr que oui, sinon je ne serais pas revenu. A-t-il dit quelque chose quand il était conscient ?»«
Simplement qu'il s'inquiétait pour vous. » Z fit volte-face et retourna dans le salon en grommelant.
« Mais il a de sacrément bonnes raisons !»
S'asseyant à la table, il pela les racines, les éminça, remplit une casserole d'eau, jeta les morceaux dedans et suspendit le tout au-dessus de la cheminée. Puis il alimenta le feu avec les pelures et un peu de bois sec. Approchant d'une armoire, il en sortit une collection de fioles de différentes tailles. Sans hésitation, il en ouvrit une et versa dans un mortier en pierre noire une petite quantité de poudre bleue. Il recommença l'opération avec les autres fioles, saisit un pilon blanc et écrasa les divers composants, un arc-en-ciel de bleu, de vert, de marron et de jaune, jusqu'à obtenir une pâte de la couleur de la boue séchée. Après avoir humidifié la pointe de son index, il le trempa dans le mélange pour prélever un échantillon et le goûter. D'abord dubitatif, il finit par sourire, apparemment satisfait. Il décrocha une cuillère pendue à un clou près de la cheminée, versa la préparation dans la casserole et remua lentement en regardant bouillir sa décoction. Quand il jugea que c'était prêt, il retira la casserole du feu et la posa sur la table pour la laisser refroidir. Il prit un bol et un morceau de tissu et fit signe à Callan de venir l'aider. Elle le rejoignit et l'écouta lui expliquer comment elle devait tenir le tissu au-dessus du bol pendant qu'il versait la mixture. Quand ce fut fait, il leva un index professoral.
« À présent, tord le tissu pour extraire le liquide. Quand il n'en coulera plus, jette le filtre et son contenu dans le feu. »
Devant l'étonnement de son assistante, il fronça les sourcils.
« Ce qui reste dedans est du poison. Richard devrait se réveiller bientôt. Nous lui ferons boire la potion. Continue à tordre, je vais voir où il en est. »
Zed alla dans la chambre, se pencha sur Richard et constata qu'il était inconscient. Après avoir vérifié que Callan lui tournait le dos, absorbé par sa tâche, il posa un doigt sur le front du malade qui ouvrit aussitôt les yeux.
« Cher enfant !» lança Zed. « Nous avons de la chance. Il vient juste de se réveiller. Apporte-moi le bol. »«
Zed, » dit Richard en clignant des yeux. « Tu vas bien? Il n'y a pas de problème ?»«
Tout baigne dans l'huile, mon garçon. »
Callan entra à pas prudent pour ne pas renverser la potion. Zed aida Richard à s'asseoir et le fit boire. Quand il eut fini, le jeune homme se rallongea.
« La décoction te fera dormir et combattra la fièvre. » À ton prochain réveil, tu te sentiras bien, c'est promis. Alors, cesse de t'inquiéter dans ton sommeil.
« Merci, Zed, » murmura Richard avant de s'endormir comme une masse. Zed sortit, revint avec un plateau en étain et fit signe à Callan de s'asseoir sur la chaise.
« L'épine ne supportera pas la présence de la racine, » expliqua-t-il. « Elle sera forcée de quitter son corps. »
Il glissa le plateau sous la main de Richard et s'assit au bord du lit. Ils attendirent en écoutant la respiration du jeune homme et le crépitement du feu dans l'autre pièce, les seuls bruits qui résonnaient dans la maison. Puis Zed brisa le silence.
« Pour une inquisitrice, il est dangereux de voyager seul, cher enfant. Où est ton sorcier ?»«
Il a préféré vendre ses services à une reine. »
« Il s'est détourné de ses responsabilités envers les inquisitrices ?»
grogna Zed, désapprobateur.
« Comment s'appelait-il ? » ?»«
Giller. »«
Giller, » répéta le vieil homme, toujours grognon. « Pourquoi un autre sorcier ne t'a-t-il pas accompagné ?»«
Parce que tous se sont suicidés. Avant de mourir, ils ont lancé un sort pour que je puisse traverser la frontière, guidé par une flamme nuit. »
Zed se leva et se frotta le menton, l'air sinistre.
Vous connaissiez ces sorciers ? Demanda Callan.
Oui, j'ai longtemps vécu dans les contrées du milieu.
Et le grand sorcier, vous le connaissiez aussi ?
Le vieil homme se rassit, arrangea les plis de sa tunique et sourit.
Mon enfant, tu as de la suite dans les idées. J'ai rencontré ce personnage jadis. « Même si tu le trouves, je doute qu'il veuille se mêler de ton histoire. Aider les contrées du milieu ne l'enthousiasmera pas. »
Callan se pencha et prit entre les siennes les mains du vieil homme. « Zed, beaucoup de gens désapprouvent la cupidité du Conseil des contrées du milieu. Ils voudraient que les choses soient différentes, mais ils n'ont pas leur mot à dire, car ils n'appartiennent pas à l'élite. Ces hommes et ces femmes désirent vivre en paix. » Darkenral a réquisitionné pour son armée les vivres stockés en prévision de l'hiver. Les soldats les gaspillent, les laissent pourrir ou les revendent 10 fois plus cher à leurs légitimes propriétaires. La famine menace. Cet hiver, des malheureux mourront de faim. Comme le feu est interdit, d'autres crèveront de froid. Ral prétend que tout ça est la faute du grand sorcier parce qu'il refuse de venir et d'être jugé comme tout ennemi du peuple doit l'être. Le sorcier a attiré le malheur sur la tête de ces gens et il est le seul à blâmer. Ral ne donne aucune explication convaincante. Pourtant, les foules le croient. Trop de gens gobent ces mensonges, même si ce qu'ils voient chaque jour devrait leur dessiler les yeux. Les sorciers vivaient dans la peur et on leur avait interdit d'exercer leur art. Un jour ou l'autre, ils le savaient, on les contraindrait à agir contre le peuple.
Je sais qu'ils ont commis des erreurs dans le passé et cruellement déçu leur maître. Mais ils n'ont jamais oublié le point essentiel de son enseignement. Protéger le peuple et ne lui nuire sous aucun prétexte. En gage d'amour pour leurs semblables, ils se sont sacrifiés afin d'arrêter Darkenral. Leur maître serait fier d'eux s'il savait. Mais cela ne concerne pas que les contrées du milieu. La frontière qui les sépare de Dara est tombée. Celle qui protège Terre d'Ouest faiblit déjà. Bientôt elle n'existera plus. Le peuple de votre terre d'accueil sera alors la proie de ce qu'il redoute le plus, la sorcellerie. Une force plus terrible et effrayante que ce qu'il avait jamais imaginé.
Zed ne trahit aucune émotion, ne fit aucun commentaire et n'émit pas l'ombre d'une objection. Il continua à écouter sans retirer ses mains de celles de Kalan.
Le grand sorcier pourrait se moquer de tout ce que j'ai dit, mais Darkenral a mis dans le jeu les trois boîtes d'Ordaine et cela change tout. S'il réussit, le premier jour de l'hiver, il sera trop tard pour tout le monde, y compris le grand sorcier. Ral le cherche déjà pour se venger de lui. Beaucoup d'innocents sont morts parce qu'ils ne pouvaient pas lui dire son nom. Mais quand Ral ouvrira la bonne boîte, il aura un pouvoir absolu sur toutes les créatures vivantes et le sorcier ne pourra plus lui échapper. Il peut se cacher tant qu'il veut en Terre d'Ouest. Le premier jour de l'hiver, ce sera fini et Darkenral le capturera.
Une grande amertume passa dans le regard de Kalan.
Zed, les quatuors de Ral ont tué toutes les autres inquisitrices. J'ai recueilli le dernier soupir de ma sœur après qu'ils se furent occupés d'elle. À présent, il ne reste que moi. Les sorciers savaient que leur ancien maître ne voudrait pas s'en mêler, c'est pour ça qu'ils m'ont envoyé. Je suis le dernier espoir du monde. S'il est trop borné pour comprendre que nous aider revient à se sauver lui-même, je devrais utiliser mon pouvoir pour le contraindre à agir.
Et que fera un vieux sorcier abougri contre Darkenral ?
Demanda Zed. Désormais, c'était lui qui tenait les mains de Kalan entre les siens.
Il désignera un sourcier.
Quoi ?
S'étrangla Zed en bondissant sur ses pieds.
Cher enfant, tu parles de choses dont tu ignores tout.
Troublé, Kalan s'adossa au dossier de son siège.
Que voulez-vous dire ?
« Les sorciers se désignent tout seuls. Le sorcier les reconnaît, pourrait-on dire, et officialise les choses. »«
Je ne comprends pas. Le sorcier ne choisit donc pas le bon candidat ?» Zed se rassit.
« Eh bien, oui, en un sens, mais après coup. Un véritable sorcier, celui qui peut changer les choses, doit montrer de lui-même qu'il est digne du titre. » Le sorcier ne désigne pas quelqu'un du doigt en disant « Voilà l'épée de vérité, tu seras le sorcier ». Le choix ne lui revient pas, comprends-tu? On ne peut pas former un être pour qu'il devienne un sorcier. Il est ce qu'il est et se révèle par ses actes. Pour être sûr, le sorcier doit observer un individu pendant des années. Le bon candidat n'a pas besoin d'être un génie, mais il doit avoir les qualités requises. Être fait pour ça, si tu veux. Et on ne trouve pas facilement de tels individus. Le sorcier assure l'équilibre du pouvoir. Mais le conseil utilise sa nomination comme un os qu'il jette à un des chiens qui glapissent à ses pieds. À cause de la puissance du sorcier, c'est une fonction très recherchée. Le conseil n'a rien compris. Ce n'est pas la fonction qui donne de la force à son titulaire, c'est l'individu qui apporte la sienne à la fonction.
Il se pencha vers Kalan.
Ma chère enfant, tu es née après que le conseil se fût arrogé le droit de désigner le sorcier. Peut-être as-tu vu un sorcier quand tu étais petite, mais ils étaient déjà tous des imposteurs.
Zed se laissa emporter par son sujet, la voix vibrante de passion.
J'ai vu un vrai sorcier faire trembler un roi de peur en lui posant une simple question. Et quand un authentique sorcier dégaine l'épée de vérité, il leva les bras survoltés. Son juste courroux est un spectacle fascinant.
Kalan sourit de voir le vieil homme s'animer avec tant d'enthousiasme.
Les dieux s'empâment de joie et les méchants pâlissent de terreur.
Mais les gens croient rarement à la vérité, même quand elle se dresse devant eux, surtout quand ils refusent de la reconnaître. Ainsi, la position de sorcier est une des plus dangereuses qui soit. Pour ceux qui veulent usurper le pouvoir, il est un obstacle. Alors, il s'attire les foudres de bien des puissants. Le plus souvent, il est seul et ne vit pas très vieux.
« Je connais bien ça, » dit Callan avec un pauvre sourire. Zed se pencha un peu plus vers elle.
« Contre Darkenral, même un authentique sorcier ne résisterait pas longtemps. Que se passerait-il après ?»
Callan reprit les mains de son compagnon.
« Zed, nous devons essayer. C'est notre seule chance. Si nous ne jouons pas cette partie-là, nous ne pourrons rien faire. »
Le vieil homme se redressa et s'éloigna de la jeune femme.
Si le sorcier désigne quelqu'un ici, l'élu ne connaîtra pas les contrées du milieu et il n'aura aucune chance de s'en sortir. Cela reviendrait à prononcer une sentence de mort.
C'est aussi pour ça qu'on m'a envoyé. Je devrais guider le sorcier, rester à ses côtés et le protéger, fût-ce au prix de ma vie. Les inquisitrices passent leur existence à arpenter le pays. J'ai été presque partout dans les contrées du milieu. Et depuis ma naissance, on m'a entraîné à parler plusieurs langues. C'est une obligation, car une inquisitrice peut être appelée n'importe où. Je parle toutes les langues majeures et la plus grande partie des dialectes. Et si les membres de ma profession s'attirent les foudres de certains, la loyauté de bien des gens leur est acquise. Si nous étions des cibles faciles, Rahl n'aurait pas besoin de lancer des quatuors à nos trousses. Beaucoup de ces tueurs ont péri en accomplissant leur mission. Zed, je peux protéger le sorcier, et tant pis si je dois y laisser la vie.
Ce que tu proposes fera courir un terrible danger au sorcier, ma chère enfant, et à toi-même.
Une meute est déjà à mes trousses. Si vous avez une meilleure idée, n'hésitez pas à l'exposer.
Avant que Zed puisse répondre, Richard gémit. Le vieil homme se leva.
Nous y voilà.
Callan se leva aussi et le regarda prendre le bras blessé de Richard par le poignet et placer sa main au-dessus du plateau. Du sang coula sur l'étain, quelques gouttelettes, puis l'épine suivit le même chemin. Callan tendit les doigts pour la ramasser.
Zed lui saisit le poignet.
« Ne la touche pas, cher enfant. Maintenant que son hôte l'a expulsée, elle voudra s'en trouver un nouveau. Regarde !»
Callan dégagea sa main. Zed posa un index sur le plateau, à quelques pouces de l'épine, qui rampa aussitôt vers sa cible en laissant une minuscule traînée de sang dans son sillage. Zed retira vivement son doigt. Il prit le plateau et le tendit à Callan.
« Tiens-le par en dessous et va le poser sur le feu, à l'envers, et n'y touche plus !»
La jeune femme suivit ses instructions à la lettre. Zed nettoya la plaie de Richard et la badigeonna d'onguent, puis il se tourna vers Callan, revenu dans la chambre.
« Pourquoi ne lui as-tu pas dit que tu étais une inquisitrice ?»
demanda-t-il agressivement.
« À cause de la façon dont vous avez réagi en m'identifiant ?»
riposta Callan sur le même ton. Mais sa colère retomba aussitôt.
« Richard et moi sommes devenus amis. Je n'ai aucune expérience de ce genre de relation. Mais je sais ce que subit une inquisitrice. Toute ma vie, j'ai vu des gens se comporter comme vous. » Quand je partirai avec le sourcier, je lui dirai la vérité. Jusque-là, je voudrais garder l'amitié de Richard. Est-ce trop demandé? N'ai-je pas droit à un plaisir que tous les humains connaissent, avoir un ami? Quand il saura, tout sera terminé. »
Zed glissa un doigt sous le menton de la jeune femme et la força à relever la tête pour qu'elle découvre son sourire bienveillant.
« Quand j'ai compris qui tu étais, j'ai réagi comme un imbécile. » J'étais surpris car je pensais ne jamais revoir une inquisitrice. J'ai quitté les contrées du milieu pour fuir la sorcellerie, et voilà que tu brisais mon isolement. Je m'excuse de t'avoir donné le sentiment de n'être pas la bienvenue. Sache que je respecte les inquisitrices à un point que tu ne connaîtras peut-être jamais. Tu es une femme de qualité, et ma maison t'est ouverte de bon cœur.
Merci. Zedicus Zellzorander.
Soudain, l'expression de Zed se durcit. Callan n'osa pas bouger. Le doigt du vieil homme toujours sous son menton, histoire de l'empêcher de détourner le regard.
« Encore une chose, mère inquisitrice, »
souffla Zed menaçant.
« Ce garçon est mon ami depuis longtemps. Si tu le touches avec ton pouvoir, ou si tu le choisis, tu devras m'en répondre, et tu n'aimeras pas ma réaction. C'est compris ?»«
Oui, »
murmura Kalan.
« Parfait. »
De nouveau bienveillant, Zed retira son doigt de sous le menton de la jeune femme et se tourna vers Richard. Refusant de se laisser intimider, Kalan le prit par le bras et le força à se retourner.
« Zed, je ne lui ferai rien. Pas à cause de vos menaces, mais parce que je l'aime bien. Je veux que vous le sachiez. »
Ils se défièrent du regard un long moment. Puis Zed la gratifia d'un des sourires malicieux et désarmants dont il avait le secret.
« Si j'ai le choix, cher enfant, je préfère de loin cette option. »
Kalan se détendit, contente de s'être bien fait comprendre, et le serra brièvement dans ses bras. Zed lui rendit son étreinte de bonne grâce.
« Un sujet reste ouvert, » dit-il. « Tu ne m'as pas demandé de t'aider à trouver le grand sorcier ?»«
Non, et je ne le ferai pas. Richard craint que vous refusiez. Je lui ai promis de le laisser aborder la question. Une parole d'honneur. »«
Fascinant !»
fit Zed en se grattant le menton. Sautant du coq à l'âne, il posa une main sur l'épaule de Kalan et lança
« Cher enfant, tu sais que tu ferais une très bonne sorcière ?»«
Une femme peut être désignée ?»
« Mais évidemment, quelques-uns des meilleurs sorciers en étaient. »«
Merci bien, j'ai déjà un métier impossible. Un deuxième ne me dit rien. »«
Tu as sans doute raison, »
admit Zed, plus malicieux que jamais.
« Cher enfant, il est affreusement tard. Prends mon lit dans la chambre d'à côté et accorde-toi un repos bien mérité. Je veillerai sur Richard. »«
Non. »
Kalan se rassit sur la chaise.
« Je ne veux pas le laisser. »«
Comme tu voudras. »
Zed se plaça derrière elle et lui tapota gentiment l'épaule.
« Comme tu voudras !»
Il lui posa les doigts sur les tempes et la massa doucement.
« Endors-toi, ma petite !»
Kalan soupira et ferma les yeux.
« Endors-toi !»
La jeune femme croisa les bras sur le bord du lit et y laissa tomber sa tête. Après avoir étendu une couverture sur elle, Zed gagna la porte d'entrée, l'ouvrit et sonda l'obscurité.
« Le chat, amène-toi, j'ai besoin de toi !»
L'animal accourut et se frotta contre les jambes de son maître, la queue fièrement dressée.
« Va dormir sur les genoux de notre invité, » dit Zed en le caressant derrière les oreilles. « Tiens-lui chaud !»
Le matou se précipita dans la chambre et laissa le vieil homme s'offrir une petite promenade solitaire sous le ciel étoilé. Sur les trois sentiers qui serpentaient entre les herbes folles, le vent faisait claquer la tunique de Zed. Dans le ciel zébré de filaments de nuages, la lune fournissait une lumière suffisante pour s'orienter. Ayant suivi ce chemin des milliers de fois, Zed n'aurait pas été plus gêné par une nuit d'encre.
« Rien n'est jamais facile, »
marmonna-t-il en marchant. Près d'un bouquet d'arbres, il s'arrêta, pivota lentement sur lui-même, sonda l'obscurité et tendit l'oreille. Alors que les branches ondulaient sous le vent, il huma l'air à la recherche d'un mouvement inhabituel. Un insecte lui piqua le cou. Il l'écrasa sans pitié, le prit entre le pouce et l'index et l'examina attentivement.
« Une mouche à sang. Fiche tréfautre, il ne manquait plus que ça !»
Une créature jaillit d'un gros buisson à quelques pas de lui. Une montagne d'ailes, de fourrure et de crocs l'attaquait. Les poings sur les hanches, Zed attendit. Juste avant que le monstre soit sur lui, il leva un bras, forçant le garne à queue courte à s'arrêter net. La bête, arrivée à l'âge adulte, le dépassait de trois bons pieds et elle était deux fois plus féroce qu'un de ses congénères à longue queue. Elle grogna et cligna des yeux, tous ses muscles bandés pour lutter contre la force invisible qui l'empêchait d'avancer vers une proie qu'elle était furieuse de n'avoir pas encore tuée. l'index plié, Zed obligea le garne à s'approcher de lui. Écumant de rage, le monstre se pencha en avant. Le vieil homme lui enfonça son doigt sous le menton.
« Comment t'appelles-tu ? »
demanda-t-il menaçant. Le garne émit un son de gorge rauque.
« Très bien. Je ne l'oublierai pas, tu peux me croire. Maintenant réponds à une question. Veux-tu vivre ou mourir ?»
La bête tenta en vain de reculer.
« Bien, je vois que tu tiens à ta peau. Donc, tu m'obéiras au doigt et à l'œil. Écoute attentivement. Entre ici et Dara. Un quatuor se dirige vers moi. Je veux que tu traques ces hommes et que tu les tues. Ensuite, retourne chez toi en Dara. Si tu exécutes mes ordres, je te laisserai vivre. Mais n'oublie pas que je connais ton nom. Si tu épargnes les tueurs ou si tu reviens dans mon pays après avoir accompli ta mission, je te tuerai et je livrerai ta carcasse à tes maudites mouches. Marché conclu ? »
Le garne grogna son accord.
« Parfait. À présent, fiche le camp !»
Zed retira son index dessous le menton du monstre. Pressé de fuir, le garne battit frénétiquement des ailes et piétina l'herbe en prenant son envol. Zed le regarda décoller et décrire dans l'air des cercles de plus en plus larges. Lancé à la recherche du quatuor en direction de l'est, le monstre disparut de la vue du vieil homme. Alors, il entreprit de gravir la colline. Arrivé au sommet, il approcha de son rocher nuage, pointa un index dessus et le fit lentement pivoter sur son axe comme s'il remuait un ragoût. L'énorme bloc de pierre vibra. On eût dit qu'il essayait de tourner en rythme avec le doigt de Zed. Sous cet effort, la pierre finit par se craqueler, comme si elle résistait en vain à la force résolue à la mettre en mouvement. Puis sa surface granuleuse se modifia. Incapable de maintenir plus longtemps son intégrité, la structure même du rocher se liquéfia assez pour que son imposante masse obéisse aux doigts de Zed et tourne sur elle-même. Le vieil homme accéléra le rythme jusqu'à ce qu'un rayon de lumière jaillisse de la roche en fusion. Le vieil homme accéléra encore son mouvement. La lueur augmenta d'intensité, des étincelles et des taches de couleur tourbillonnant en son centre. Alors, des formes et des silhouettes apparurent et disparurent au sein de ce vortex tumultueux. La lumière menaçait d'embraser l'air autour de Zed. Un sifflement semblable à celui du vent qui s'engouffre dans une fissure retentit. Les odeurs de l'automne devinrent soudain les parfums de l'hiver, puis ceux de la terre fraîchement labourée au printemps et enfin ceux des floraisons estivales. Quand les senteurs de l'automne revinrent, une clarté saine et pure chassa les étincelles et les flocons de couleurs. Le rocher se solidifia de nouveau. Zed sauta dessus et s'immergea dans la lumière. Peu à peu, celle-ci perdit de sa splendeur pour devenir une pâle lueur dont les spirales évoquaient des volutes de fumée. Deux silhouettes se formèrent devant le vieil homme. Malgré leurs contours flous, comme si elles étaient constituées de lambeaux de souvenirs, elles restaient reconnaissables. Le vieux cœur de Zed battit la chamade quand la voix spectrale de sa mère vint caresser ses oreilles.
« Qu'est-ce qui te tourmente, mon fils ? Pourquoi nous as-tu invoqués après tant d'années ?»
Elle tendit les bras vers le vieil homme. Il l'imita, mais ne put pas la toucher.
« Ce que m'a raconté la mère inquisitrice m'a troublé. Elle disait la vérité. »
Zed ferma les yeux et ses bras se baissèrent en même temps que ceux de sa mère.
« Alors, tous mes disciples sont morts, à part Giller ? Toi seul peux encore protéger la mère inquisitrice ?»
Elle flotta dans les airs pour se rapprocher de lui.
« Tu dois désigner le sourcier. »
« Le conseil récolte ce qu'il a semé. Et tu voudrais que j'aide ces gens ? Ils n'ont pas tenu compte de mon avis, qu'ils crèvent étouffés par leur propre cupidité. »
Le père de Zed approcha à son tour.
« Mon fils, Pourquoi étais-tu furieux contre tes disciples ?
Parce qu'ils ont pensé à eux au lieu de faire leur devoir et de protéger les gens.
Je vois. En quoi est-ce différent de ta réaction d'aujourd'hui ?
L'écho de ces paroles plana un long moment dans l'air.
J'ai proposé mon aide et on me l'a renvoyée à la figure,
grogna Zed, les poings serrés.
Ceux qui t'ont rejeté n'étaient-ils pas aveugles, stupides et rongés par la cupidité ? Veux-tu qu'ils aient triomphé de toi si aisément ? Les laisseras-tu t'empêcher d'aider ceux qui le méritent ? Tu abandonnes les gens, mon fils. Si ta raison d'agir ainsi te semble plus juste que celle de tes disciples, le résultat est le même. À la fin, ils ont su reconnaître leur erreur et faire ce qui s'imposait. Comme tu le leur avais enseigné. Il est temps d'apprendre de tes élèves, professeur.
Zédicus, ajouta sa mère, permettras-tu la mort de Richard et de tant d'autres innocents ? Désigne le sorcier.
Il est trop jeune.
Si tu ne te décides pas, il n'aura pas l'occasion de vieillir.
Il n'a pas passé mon épreuve finale.
Darkenral, traque Richard. C'est lui qui a envoyé le nuage qui le suit comme une ombre. C'est lui aussi qui a mis le fragment de liane dans le vase, afin que Richard trouve la plante et qu'elle le blesse. L'épine ne l'aurait pas tué, mais la fièvre l'aurait gardé inconscient jusqu'à ce que Ral le capture.
La mère de Zed approcha encore, la voix soudain pleine d'amour.
Au fond de ton cœur, depuis que tu l'observes, tu espères qu'il sera celui que tu attends.
Même si c'est vrai, pourquoi le désigner ?
Le vieil homme ferma les yeux et baissa la tête.
Darkenral détient les trois boîtes d'Orden.
Non,
dit le spectre masculin.
Il en a deux, et il cherche la troisième.
Quoi ?
S'écria Zed en relevant la tête, les yeux grands ouverts.
Il ne les possède pas toutes ?
Non,
confirma sa mère.
Mais ce sera bientôt fait.
Et le grimoire des ombres recensées, il est sûrement entre ses mains ?
Non, il le cherche aussi.
Alors, il reste une chance,
murmura Zed pensif.
Mais quel crétin mettrait dans le jeu les boîtes d'Orden avant de les avoir toutes et de s'être approprié le grimoire ?
Un crétin très dangereux,
répondit sa mère.
Darkenral voyage dans le royaume des morts.
Zed en eut le souffle coupé. Le regard de sa mère sembla le transpercer comme une lance.
C'est en passant par là qu'il a pu traverser la frontière et récupérer la première boîte. Dans le monde d'en dessous, il a su se gagner des partisans. Leur nombre grandit à chacune de ses visites. Si tu décides d'agir, sache que tu ne devras pas traverser la frontière, ni en charger le sourcier. C'est ce qu'attend Ral. Si tu le fais, il t'aura. La mère inquisitrice a réussi à passer parce qu'il n'avait pas prévu qu'elle essaierait, mais il ne commettra pas deux fois la même erreur.
Si je ne peux pas aller dans les contrées du milieu avec le sorcier,
dit Zed,
comment aider leur peuple ?
Je suis désolé, mais nous n'en savons rien. Il existe sûrement un moyen, hélas, nous ne le connaissons pas. Voilà pourquoi tu dois désigner le sorcier. Si c'est le bon, il trouvera une solution.
Les deux silhouettes commencèrent à s'estomper.
Attendez, il me faut des réponses, ne m'abandonnez pas.
On nous rappelle derrière le voile, mon fils.
Nous devons partir, même si nous aimerions rester.
Pourquoi râle traque-t-il à Richard? Je vous en prie, aidez-moi.
Nous l'ignorons,
dit le père de Z, sa voix devenue distante et faible.
Tu devras trouver seul la solution. Mais nous t'avons bien formé, et tu es plus doué que nous. Sers-toi de ce que nous t'avons enseigné, et fie-toi à ton instinct. Nous t'aimons, mon fils. Mais tant que tout cela ne sera pas terminé, d'une manière ou d'une autre, nous ne nous reverrons plus. Les boîtes d'Ordaine, mises dans le jeu, revenir vers toi risquerait de déchirer le voile.
La mère de Zed lui embrassa la main et lui tendit la sienne pour qu'il y pose un baiser. Puis, les spectres disparurent. Zedicus, Zal Zorander, le grand et très honorable sorcier, resta seul sur le rocher nuage que son père lui avait donné. Sondant la nuit, il retourna dans sa tête de profondes pensées de très profonds sorciers.
« Rien n'est jamais facile, »
murmura-t-il quand il eut fini de méditer.